On revient sur cette sortie publique du 13 avril dernier de divers organismes concernant les lacunes des soins à domicile et de l'impact sur les aînés. On estime à quelque 16 500 personnes le nombre d'aînés en attente de services et de maintien à domicile au Québec et le temps d'attente varie de 6 mois à 1 an en moyenne. C'est un dossier important qui est suivi, entre autres, et qui est porté aussi par le réseau FADOC. Je m'entretiens avec M. Danny Prudhomme, directeur général du réseau FADOC. Bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous ce midi.
Merci à vous.
La semaine dernière, justement, le réseau FADOC s'est joint à d'autres associations, quelques députés de l'opposition, afin de dénoncer les lacunes du gouvernement en termes de soins à domicile.
Oui, tout à fait. Écoutez, je pense que ça fait quand même plusieurs années que le Québec jongle avec des politiques de vivre et veiller chez soi le premier choix. Donc, on les remodle, on fait un remodelage, en fait, des politiques, on change les noms, mais il n'y a toujours pas grand-chose qui est mis de l'avant concrètement. Donc, aujourd'hui, après plusieurs années, on voit qu'il y a vraiment eu une diminution de services, de soins, à travers toutes les restructurations qu'on fait et que les gens, finalement, ben, ils ont plus vraiment de choix.
Justement, un investissement dans le soutien à domicile, dans les services à domicile, faisait pourtant partie d'une promesse de la campagne de 2014.
Oui, ben en fait, on pourrait reculer même jusqu'en 2006-7-8 où on a commencé à faire ça. Après ça, 2008, 2009-10, 2012-14. Malheureusement, à chaque fois, les sommes qu'on veut allouer semblent diminuer, ou en tout cas, quand on fait une promesse, finalement, quand on verse, ou en tout cas, là, on vient de voir dans le dernier budget, l'ordre d'à peu près 60 millions, alors qu'on parlait, il y a quelques années, de l'ordre de 500 millions sur quelques années à 1 milliard. Donc, c'est sûr que on semble y aller à tâtons, on semble ne pas avoir de planification concrète, alors qu'on sait très bien depuis très longtemps que la population vieillit au Québec, plus vite qu'ailleurs au Canada, et que en ce moment, finalement, si on propose à peu près 15% d'augmentation dans cette desserte de services-là, ben la population uniquement des 85 ans, elle, va croître de 30%. Donc, on est en déficit tout le temps, là.
Oui, et justement, bon, cette augmentation de 15% reste que d'année en année, on est capable d'observer une augmentation de 50% des demandes et des besoins.
Oui, ben tout à fait. Dans le fond, c'est que les gens, on se rend compte que on a un facteur qu'on appelle, nous, le facteur « ça dépend ». Ça dépend d'avoir des soins si dans cette région-là, il y en a. Ça dépend d'avoir des soins dans une autre région s'ils ont les moyens d'en donner puis il reste du budget. On peut pas fonctionner comme ça dans un système de santé, premièrement, et on peut surtout pas fonctionner comme ça avec la santé des gens. Parce que ce qu'on voulait démontrer, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens doivent payer de leur poche des soins, soit via des entreprises d'économie sociale, soit via d'autres sortes d'entreprises privées. Et à ce moment-là, il y a un déficit, donc on n'est pas capable de le payer. Là, on démontrait dans deux cas types, avec tout ce qu'on disait, tout ce que vous allez entendre est vrai, seuls les noms ont été changés, donc on ne sait pas de la fiction. Là, les gens ont un déficit mensuel de 100 $ dans les deux exemples qu'on donne. Et dans certains exemples, les gens vont avoir des enfants qui vont contribuer comme proches aidants et ils vont même y mettre de l'argent dans un des exemples qu'on a donné, mais ils n'en ont plus après une année de l'argent, les gens en mettent. Donc, on est en train de siphonner la vie de ceux qui ont besoin de soins et la vie de ceux qui ont des parents ou des gens qui ont besoin de soins.
Tout à fait. Vous avez démontré justement qu'un aîné doit en moyenne dépenser entre 200 et 250 $ du côté des services privés. Et alors qu'un aîné sur deux qui a 75 ans et plus a un revenu annuel inférieur à 20 000 $ Donc, ça ne peut pas durer.
Non, tout à fait. Puis souvent, on va entendre, puis on l'a entendu, quand on parlait des frais accessoires, notamment, qui est un autre dossier qui fait que les gens s'appauvrissent, le ministre lui-même a dit, écoutez, les gens sont capables de payer ça. Ben, je ne sais pas sur quelle planète il vit, parce que quand on voit les chiffres que vous venez de donner, au Québec, on a 44 % de nos aînés qui ont besoin du supplément de revenu garanti. Donc, à la base, ces gens-là, quand on fait moins de 20 000, je comprends qu'on ne paie pas beaucoup d'impôts. Par contre, on en paie quand même. Nous, on le démontre dans nos exemples. Et à ce moment-là, si on paie le loyer moyen, puis on a pris l'exemple de Montréal, la nourriture, donc on n'y arrive pas. Donc, forcément, si on nous rajoute des frais, que ce soit pour le maintien à domicile, les frais accessoires ou autres, on n'est pas capable. Et on paie de notre santé.
Justement, M. Prudhomme, ce manque d'investissement a des impacts concret sur la vie des aînés. On l'évoquait aussi même sur la vie de l'entourage, donc des proches aidants, de la famille, de ces aînés. Qu'est-ce qu'on peut remarquer justement comme premier impact?
Ben, le premier, c'est que les gens sont pas capables de vivre dignement. Et dignement, je parle pas dans le luxe, c'est-à-dire de recevoir ce qu'ils ont besoin actuellement comme soins et services dans le cas de gens en perte d'autonomie. Ça, c'est la première chose directe et ça affecte leur santé directement. La deuxième, dans le cas des proches aidants, souvent la famille ou en tout cas des amis, ces gens-là vont devoir s'absenter du travail, donc vont payer de leurs vacances ou de leurs journées personnelles pour ceux qui en ont. Et dans certains cas, il y en a même qui vont diminuer leur horaire de travail de façon permanente. Donc, non seulement ils s'appauvrissent actuellement, parce qu'en plus, ils déboursent pour la personne, parce qu'elle n'a pas assez d'argent, mais ils s'appauvrissent pour leur retraite future, parce que si on ne paie pas 5 jours de fonds de pension ou de régie des rentes, ben on n'en aura pas l'équivalent de 5 jours quand on va prendre notre retraite. Donc, on est en train d'appauvrir les futurs aînés de notre population là, qui vont arriver là dans 20, 30 ans. Donc, en bout de ligne, les proches aidants, malheureusement, souvent, c'est eux qui vont même se retrouver les premiers sur la scène une fois que la personne, à titre d'exemple, si elle est décédée, ben le proche aidant va devenir malade à son tour. Mm-hmm. Donc là, on est dans un cercle d'enfer. On ne peut pas faire ça.
Tout à fait. Le regroupement des aidants naturels du Québec avait d'ailleurs dénoncé ce rapport utilitaire qu'entretient le gouvernement avec les familles et les conjoints des personnes aînées, des personnes handicapées. Quel est votre son de cloche par rapport à ça, à ce rapport-là justement où on délaisse un peu de responsabilité sur les proches aidants?
Ben écoutez, de voir, on sait que quand on a de la famille ou des amis proches, on va aider tant qu'on peut. Ça, c'est une première chose. Mais là, le gouvernement est en train d'avoir un désengagement total au niveau de la santé, c'est-à-dire qu'on privatise plein de choses. Et de l'autre côté, on en demande de plus en plus aux proches aidants qui, en passant, ne coûtent rien au gouvernement. Donc, on est comme en train d'avoir un cheap labor, en fait, c'est même plus un cheap labor parce qu'il ne coûte rien, où on va dire de faire plus en plus puis de responsabiliser les familles, parce qu'on entend ça des fois, de dire, ben il faut responsabiliser les familles, c'est leur obligation, c'est leurs parents. Oui, on veut bien, mais aujourd'hui, ça veut pas dire que, premièrement, nos enfants, on en a plus 6, 8, 10 par famille. On en a au Québec 1,8, donc même pas 2. Et de l'autre côté, ben malheureusement, donc ça en fait moins pour prendre soin de la famille. Et en plus, c'est que souvent, malheureusement, avec la mondialisation, les enfants sont même plus à côté des parents. Ils sont un peu partout dans le monde. On veut bien se responsabiliser d'une part, mais de l'autre part, il ne faut pas non plus que l'État se déresponsabilise.
Oui, l'attente et les coupures d'heures dans les soins à domicile affectent aussi la santé physique et psychologique des proches aidants. Il y a beaucoup de gens qui se tournent justement vers les entreprises privées pour aller chercher en complément de ce que le système public peut leur offrir.
Tout à fait. Puis on a vu d'ailleurs dans les médias il y a quelques semaines où on disait que ces entreprises-là poussent comme des champignons. Bien entendu, lorsqu'il y a un vide, l'humain n'aime pas ça, puis il va le combler. Donc, étant des libres entreprises, les gens vont créer des entreprises pour offrir des soins que les gens ont besoin. Nous, ce qu'on dit, c'est on n'a rien contre ça comme tel. Ce qu'on en a contre, c'est le fait que le gouvernement se désengage et laisse la voie ouverte au privé. À ce que je cherche au Québec, quand nos aînés, nos bâtisseurs ont mis sur pied le système de santé qu'on a aujourd'hui, le monde était pour un système de santé universel, accessible et gratuit. Gratuit, on s'entend, on le paie sur nos impôts, là. C'est pas vraiment gratuit. Mais à la base, c'est le système qu'on a toujours aujourd'hui. Et là, on est en train de le déconstruire petit à petit avec les différents projets de loi, sans demander à la population si c'est ça qu'elle veut. Est-ce qu'on veut s'en aller privatiser ou est-ce qu'on veut demeurer le système universel qu'on a? Et puis, nous donner les vrais coûts, de dire voici comment ça en coûterait, voici ce que ça coûterait de l'autre façon. Et puis que les gens, si on veut qu'ils décident, ben leur donner le pouvoir entre les mains. Aujourd'hui, c'est un individu qui prend toutes ces décisions-là sans consulter la population pour laquelle les services on doit leur donner. Et ben en fait, c'est ce qu'on dit aussi qui n'est pas correct. Faisons un vrai débat de société si on veut savoir ce que les gens veulent. Et puis, on prendra à ce moment-là des décisions en toute bonne foi. Là.
Le soutien à domicile est menacé, il y a un risque de se retrouver en institution. C'est beaucoup plus coûteux à l'État de placer quelqu'un dans un CHSLD, par exemple.
Oui, ben en fait, ça, c'était si on pouvait. Parce que même de ce côté-là, effectivement, c'est plus coûteux, comme vous l'avez dit, beaucoup plus coûteux. Et ça a été prouvé par plein d'experts à travers le monde où certains pays, dans les pays nordiques, on voit qu'ils, comme on dit, les bottines suivent les babines, ce qui n'est pas le cas ici. Eux vont mettre de l'avant ce qu'il faut pour diminuer les coûts et assurer des services de qualité à domicile. Ici, si on voulait aller en CHSLD, il y a déjà à peu près 5000 personnes en attente. Pourquoi? Parce qu'au fil des ans, on a coupé des lits en CHSLD et le gouvernement ne veut pas reconstruire de CHSLD et augmenter donc les lits par la bande. Et pourquoi? Ben, parce qu'il se dit que les soins à domicile coûtent moins cher, sauf qu'il ne met pas l'argent dans les soins à domicile. Il n'en met pas plus, il faut dire, dans les CHSLD. Donc, on a un sérieux problème de gouvernance au niveau de notre système de santé, de fonctionnement quant à la façon qu'on doit donner les soins aujourd'hui par rapport à il y a 30-40 ans, qu'il faut adapter ce qu'on n'a pas fait à notre système, et il faut surtout le décentraliser par rapport à l'hospitalo-centrique qu'on appelle. C'est-à-dire que les pays qui offrent des vrais soins à domicile vont prendre 60 à 70 de leur budget en santé, le mettre vers les soins à domicile, et un 30-40 vers les hôpitaux. Pourquoi ils peuvent faire ça? Bien, parce que si on garde les gens chez eux, on va désengorger les urgences et les hôpitaux, puis on va traiter vraiment les cas qu'il faut traiter à l'hôpital, point final. Et ça, ici, on n'ose pas faire ça. Comme on dit qu'on prend le tournant soins à domicile, on a à peine 20 % de notre budget santé qui va aux soins à domicile. Donc, on dit une chose, mais on fait le contraire.
Alors, c'est intéressant ce que vous amenez. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment tout de même différents modèles de système de santé desquels on pourrait s'inspirer.
Bien sûr, bien sûr. Et il ne faut pas essayer de réinventer la roue. La roue, elle a déjà été inventée dans ce domaine-là des soins à domicile dans d'autres pays. Bon, je ne dis pas que ces pays-là sont parfaits, là, mais je pense qu'il y a des modèles desquels on peut déjà s'inspirer pour adapter à notre population, un, ce qu'elle veut, parce que ça, on ne le sait pas, on ne leur demande pas, on leur impose des choses, et deux, à savoir comment dans notre culture, notre pays, ici au Canada en général, mais au Québec plus particulièrement dans le cas des soins de santé, comment on veut aborder les soins de santé. Vous savez, on est allé en commission parlementaire pour un projet « Mourir dans la dignité ». Là, le Canada est en train d'en débattre actuellement. Mais nous, on a dit tout au long de ce processus-là, est-ce qu'on pourrait commencer par vivre dans la dignité avant de penser faire un projet de loi pour mourir dans la dignité? Parce que mourir, oui, on va tous y arriver. Mais entre-temps, on vit de plus en plus longtemps et malheureusement, pas toujours dans la dignité.
Tout à fait. Ce sont des questions importantes. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui. On va certainement suivre le dossier avec vous de cette impasse concernant les soins à domicile et surtout l'impact auprès des aînés. Dany Prudhomme, vous êtes directeur général du réseau FADOC. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Merci à vous.